Bonsoir à tous. Écoutez, bienvenue pour cette table ronde dont le titre est tout simplement l'aéronautique, pourquoi pas. Ça va évidemment concerner les formations et les métiers à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas et pour d'autres qui veulent confirmer ou qui sont plus qu'intéressés. Avant de vous passer un petit film dont je vais dire deux mots après, je vous présente simplement les gens qui sont à la tribune et qui vont animer cette table ronde. À ma droite, Joël Michelin, qui est le délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue, la DAF, ce qu'on appelle le DAFPIC, c'est lui. Il sera également avec Joël Michelin, qui lui est inspecteur de l'éducation nationale et qui est, Patrick Martin, pardon, et qui est inspecteur de l'éducation nationale chargé de projet à la DAFPIC. Et puis à ma droite, tout de suite à ma droite là, c'est Sylvain Accorsini, qui est à la fois le PDG de Mecafi, qui est une des boîtes d'aéronautique de Châtellerault qui j'ai envie de dire qui marche bien. Et surtout, il est le président de l'association qui incarne la filière en Poitou-Charentes, la filière aéronautique et espace, qui s'appelle Aéroteam Poitou-Charentes. Bon, moi-même, je suis j'ai fait ma carrière au CNRS à l'ANSMA, spécialiste d'aérodynamique expérimentale, mais je suis surtout là au titre de président régional de l'Association aéronautique et astronautique de France, qui a créé entre autres événements Aérotop en 2008, en 2010 et récemment en 2012. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus et on fera intervenir l'AFSAL évidemment. En vis-à-vis avec tout ce qu'on va essayer de vous faire passer comme message sur l'aéronautique, mais pour vous mettre dans le bain immédiatement, je pense que le plus simple, c'est de visionner un film qui a été fait en 2010 par justement mon alter ego de la 3AF, l'Association aéronautique astronautique de France. C'est quelqu'un qui est à Biarritz et qui est le président régional de la région correspondante et qui a fait ce film, qui présente en gros les métiers aussi bien pour l'aéronautique que l'espace. Et ça devrait vous mettre l'eau à la bouche, pour ne pas vous dire que ça devrait vous mettre en appétit. Voilà, je pense qu'on va commencer comme ça.
L'aviation est née il y a plus de 100 ans et la France a joué, dès l'origine, un rôle fondamental et exceptionnel dans son développement. Si l'aéronautique occupe toujours, de nos jours, dans notre pays, une place importante, ce n'est pas par hasard, c'est le résultat d'une longue histoire. L'homme va commencer à voler avec les ballons et les premiers à avoir accompli un vol libre en ballon sont deux Français, Pilâtre de Rosiers et le Marquis d'Arlandes, le 21 novembre 1783. Toutefois, la vraie solution, c'est l'avion, plus lourd que l'air, mais capable de s'envoler et de se diriger par sa puissance. C'est le Français Clément Ader qui deviendra le premier homme à avoir piloté un avion capable de quitter le sol sur quelques mètres le 9 octobre 1890. Mais pour progresser, il fallait comprendre la physique du vol et avoir des moteurs légers et puissants qui n'existaient pas. Au début du XXe siècle, de nombreux pays travaillent sur l'avion. Dans l'enthousiasme populaire, les Français vont vite. Et en 1908, Henri Farman, sur avion voisin, accomplit officiellement le premier kilomètre en circuit, démontrant la capacité de l'avion à revenir à son point de départ. Aux USA, les frères Wright disent avoir volé en décembre 1903. Leur venue en France en 1908 et l'installation, début 1909 à Pau, de la première école de pilotage, sont l'occasion de belles démonstrations qui entretiennent la compétition déjà vive entre les constructeurs. Alors que les aviateurs français réalisent des vols de plus en plus longs, le journal anglais Daily Mail offre un prix à qui franchira le premier la Manche. Louis Blériot, qui a déjà construit plusieurs appareils, s'inscrit et réussit ce célèbre exploit le 25 juillet 1909. Pour la première fois, un avion traversait une mer. Les années 1910 à 1913 voient l'aviation française détenir tous les records mondiaux d'altitude et de vitesse. La France devient la patrie de l'aviation. La Première Guerre mondiale consacre le rôle de l'aviation, devenu une arme indispensable. Si les missions se spécialisent, c'est la chasse qui, aux yeux du grand public, est le domaine des célébrités qui font la une de la presse. Parmi ces aviateurs, Guynemer, 54 victoires, devenu le symbole de l'armée de l'air. Quand la guerre s'achève, l'industrie aéronautique française, qui aura produit en 4 ans environ 68 000 avions et 93 000 moteurs, est la première du monde. Dans les 20 ans qui suivent, la France continue de s'illustrer avec de nombreux exploits, comme la première traversée de l'Atlantique Nord de Paris à New York en septembre 1930 par Coste et Bellonte, après celle de Lindbergh accomplie dans l'autre sens en 1927. D'autres aventures sont également entrées dans la légende, notamment celle des lignes Latécoère vers l'Afrique et l'Amérique du Sud, puis de l'aéropostale, auxquelles sont associés des noms à jamais célèbres, comme ceux d'Antoine de Saint-Exupéry ou de Jean Mermoz. Après 1945, la France relève le défi de rebâtir une aéronautique moderne et produit de remarquables réussites commerciales et techniques. Qui ne connaît pas la Caravelle, les hélicoptères Alouette et le Mirage 3, vendu dans le monde entier, ou le lanceur Ariane, sans oublier le mythique Concorde. De nos jours, si certaines sont plus particulièrement à vocation aéronautique, toutes les régions de France accueillent des activités aéronautiques ou spatiales. Ce sont environ 250 000 personnes dans près de 5 000 entreprises qui contribuent en France à la recherche et à la production aérospatiale, nationale ou européenne. Les possibilités sont donc nombreuses de faire une carrière dans l'industrie aéronautique et spatiale qui fait appel à tous les niveaux de compétences, de la recherche à la fabrication ou la maintenance. Dans tous les cas, une bonne maîtrise de l'anglais est souhaitable. Les phases d'études et de conception font largement appel au métier de l'ingénieur, qu'il s'agisse de calcul de structure, d'études d'équipements spécifiques ou de développement de logiciels, ou encore de définition et de réalisation d'essais de validation. Les formations d'ingénieurs aéronautiques ou généralistes, proposées par différentes écoles, permettent d'accéder à ces métiers, ainsi qu'à d'autres en fabrication, essais d'ensemble ou même contrôle qualité. Prenons l'exemple d'un avion. Une fois les caractéristiques bien figées, en accord avec les demandes des clients, on passe à la réalisation du produit. Les moyens de conception informatisés et les essais préalables permettent de nos jours de réaliser des prototypes très proches des productions de série. L'avion a été conçu en plusieurs parties, qui sont elles-mêmes détaillées en ensembles plus petits et jusqu'aux pièces les plus élémentaires. C'est d'ailleurs ainsi que des entreprises de toute taille et leur personnel peuvent participer à de grands programmes au niveau qui correspond à leurs compétences. On peut donc travailler dans l'aéronautique sans pour autant entrer dans une très grande entreprise. La réalisation de la structure de l'avion fait appel aux compétences des chaudronniers pour la mise en forme des matériaux métalliques comme l'aluminium. On devient chaudronnier avec un CAP ou un bac pro de cette spécialité. Les parties en composite sont réalisées par des stratifieurs drapeurs qui réalisent des pièces avec des moules en appliquant des couches de fibres imprégnées de résine. Cette méthode permet la réalisation de pièces de forme complexe et légère. Un CAP composite plastique chaudronné, un bac pro industrie des procédés sont une bonne formation. De plus en plus de pièces de structure en composite sont réalisées au moyen de machines spéciales qui déposent automatiquement les couches de tissu ou placent des fibres continues selon une trajectoire précise. Un bac pro technicien d'usinage est une bonne base pour devenir opérateur de ces machines. L'assemblage de la cellule est une opération qui permet à l'avion de prendre forme peu à peu et qui est une phase où l'on commence à voir le produit final en tout ou partie. La plupart des fuselages sont métalliques et assemblés par rivetage. Pour des avions de petite taille ou fabriqués en petite série, Le positionnement manuel des pièces permet ensuite le rivetage par le spécialiste. Cet assemblage est en général réalisé par des ajusteurs monteurs-cellules. Ils ajustent et assemblent les pièces entre elles, puis montent les équipements mécaniques et électriques à bord. Un CAP de mécanicien cellule, un bac pro aéronautique ou technicien aérostructure, ainsi qu'un bac pro production mécanique, enfin une qualification cellule acquise dans l'armée, permettent d'accéder à cette spécialité. Certaines opérations sont, pour des raisons de grande série ou de très haute qualité, de plus en plus réalisées avec des machines à commande numérique ou des robots. Ces assemblages sur postes de jonctionnement et de rivetage automatique se généralisent, notamment pour les nouveaux programmes d'avions de transport d'Airbus ou chez Dassault Aviation. Les opérateurs, qui connaissent parfaitement le métier d'assemblage, ont aussi une qualification sur machine spéciale. Cette qualification peut s'obtenir dans l'entreprise, mais un bac pro, technicien d'usinage ou productique mécanique y prépare également. Notons que ces différents métiers ne sont pas propres aux avions ou hélicoptères. Ce sont aussi des formations requises dans le domaine spatial, qu'il s'agisse des matériaux métalliques, comme pour l'assemblage et le soudage de réservoirs de toutes dimensions, pour la réalisation de structures composites pour les missiles ou l'espace, qui font appel aux mêmes spécialités de base, même si le savoir-faire doit être adapté à l'obtention de caractéristiques différentes ou à l'usage de procédés particuliers. En parallèle à ces fabrications de structures, de nombreuses entreprises réalisent les équipements, moteurs, trains d'atterrissage, circuits d'alimentation électrique, systèmes électroniques de bord pour le pilotage et la navigation, qui vont être montés sur l'avion. À titre d'exemple, Messier Dauty réalise de nombreux trains d'atterrissage pour les Falcon et Rafale de Dassault Aviation, ou pour les Airbus et même des Boeing. Ici aussi, l'usinage puis l'assemblage des trains, qui sont de beaux produits à la fois complexes et robustes, font appel à des formations comme le bac pro, pilotage des systèmes de production automatisés. Comme dans toutes les productions aéronautiques, la très haute qualité du produit demande un travail soigné. La propulsion, qu'il s'agisse du vol atmosphérique ou des engins spatiaux, est une spécialité fondamentale. De l'usinage de pièces sur machine à commande numérique à l'assemblage final des moteurs, de nombreux spécialistes contribuent à la réalisation de ces produits de très haute technologie qui rendent possible l'envol du lanceur Ariane, la mise en orbite des satellites ou qui, dans un autre registre et sur d'autres principes, font voler les hélicoptères et les avions de toute taille. On retrouve les mêmes formations au métier de la productique informatisée et les bacs pro aéronautique, options, mécanicien système cellule. Dans notre exemple d'avion, c'est le mécanicien moteur qui interviendra en atelier et traitera les pannes ou l'entretien. Enfin, la cellule et ses équipements convergent vers la chaîne d'assemblage final. C'est dans ce type d'atelier que l'avion recevra ses ailes, fabriquées, assemblées et équipées par ailleurs, puis peu à peu, ses équipements et son moteur. Naturellement, c'est à ce stade qu'il faut aussi assurer toutes les connexions mécaniques, électriques, hydrauliques, l'alimentation au carburant, la mise en place de tous les instruments de bord et des commandes de vol. Enfin, tout ou partie de l'aménagement intérieur, l'insonorisation, les sièges, les panneaux décoratifs. Pendant cette phase, interviennent les monteurs cellules, titulaires d'un CAP mécanicien cellule ou d'un bac pro aéronautique, option mécanicien système cellule, ainsi que des spécialistes des équipements et moteurs, qui sont souvent titulaires d'un CAP maintenance système d'aéronef, d'un bac pro aéronautique ou d'une qualification acquise dans l'armée de l'air. Enfin, l'avion prêt est contrôlé et testé en vol. Si pilotes et ingénieurs d'essai sont à ce stade très sollicités, la mise en vol d'un aéronef après fabrication ou grande révision est un travail d'équipe. Dans cette équipe, le rôle du mécanicien de piste est très important et va de la vérification avant livraison aux opérations de maintenance avant le prochain vol. un bac pro aéronautique option mécanicien système cellule est bien adapté à cette spécialité. Notre parcours ne serait pas complet si l'on n'évoquait pas la maintenance des appareils en service. Un rôle fondamental pour la sécurité des vols et la régularité du service aérien. Les CAP maintenance sur système aéronef et mécanicien cellule d'aéronef, ainsi qu'un bac pro aéronautique ou technicien aérostructure, permettent d'accéder à ces métiers de la maintenance qui mettent en contact permanent avec l'appareil et ses propriétaires. Une formation acquise dans l'armée de l'air, l'aéronavale ou l'aviation légère de l'armée de terre est aussi une excellente référence. Il faut d'ailleurs souligner que les armées proposent des carrières aéronautiques à tout niveau et couvrant de nombreuses spécialités. Cette formation, acquise sur du matériel de pointe, est ensuite très appréciée par le secteur aéronautique civil qui offre des reconversions aisées. Enfin, dans l'aéronautique civile, il faut évoquer la grande variété des métiers proposés par les opérateurs aériens. Le pilotage, bien sûr, mais aussi les carrières de personnel de bord et tous les métiers au sol qui contribuent à la mise en œuvre des avions et au service des passagers. Chacun de nous a un jour levé les yeux pour voir passer un avion. Assister à un meeting aérien est toujours un spectacle passionnant, car l'aviation, c'est une passion. Derrière ces Airbus ou Rafales, les satellites, les lanceurs Ariane, il y a en France 250 000 personnes qui travaillent pour l'aéronautique et l'espace et partagent cette passion. Ils sont conscients de participer à une aventure commencée il y a plus de 100 ans et ils en sont fiers.
Bon, je crois que le ton est donné. Simplement, avant de passer la parole à Sylvain Accorsini, qui est le plus à même sur le plan industriel de vous donner un petit peu les chiffres, les grands enjeux mondiaux de l'aéronautique, puisque l'aéronautique est typiquement un secteur qui est mondialisé. Moi, je donnerai un seul chiffre qui a pratiquement doublé en même pas un an. Il faut savoir que les commandes d'Airbus correspondent aujourd'hui à 8 années de production. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, c'est énorme. Et il y a moins d'un an, c'était 4 années de production. Donc autant dire que ce secteur était réellement dans une explosion économique mondiale, hein, comme je viens de le dire. Et je pense que Sylvain Accorsini va pouvoir étayer tout ce que je suggère à travers ce que je viens de dire là. À la fois cette mondialisation, cette dimension énorme et les perspectives donc à 20 ou 30 ans sûrs. Et également, je pense, il serait intéressant que Sylvain nous donne la dimension un petit peu régionale. Qu'est-ce qui se passe en Poitou-Charentes? Quels sont parmi cette floraison d'entreprises mondialisées? Et quels sont les points forts dans notre région? Ça peut être intéressant. Suite à quoi le DAFPIC et Patrick Martin, qui en est aussi, qui en fait partie, vous donneront toutes les indications sur la manière d'accéder à ces fameux métiers qui ont été évoqués assez synthétiquement dans le film que vous venez de voir. Voilà, je passe la parole à Sylvain Accorsini.
Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Parfait. DAFPIC, c'est impressionnant. DAFPIC, ça me fait même peur que tu sois à côté de moi. Écoutez, voilà, je vais, je crois que jusqu'à minuit à peu près pour faire mon exposé. Ça va. Non, j'aurais vraiment de quoi parler. Puis en plus, je suis très bavard, donc il va falloir que Jean m'arrête ou que vous m'arrêtiez pour vous parler de l'aéronautique et surtout sur sa situation actuelle. Alors l'aéronautique, pourquoi pas? J'ai la question. Enfin, l'aéronautique aujourd'hui, si certains d'entre vous souhaitent intégrer une filière industrielle, s'il y en a une, c'est bien l'aéronautique. Alors je vais vous faire part en deux minutes de mon expérience qui en fait anime aujourd'hui tout le développement industriel dans lequel je suis. Moi je suis ingénieur de formation et j'ai commencé dans le secteur de la sidérurgie. Bon. Et je me suis pris dans les années 80 les premières claques des transferts d'industrie dans les pays asiatiques. À l'époque c'était l'Inde, d'ailleurs avec le retour aujourd'hui qu'on connaît. Sans faire de... Voilà. Et je voyais cette industrie-là partir, et moi, j'étais passionné par ces grandes machines, ces grands laminoirs, et on transférait ces productions-là qui... C'est vrai qu'il y avait un vrai savoir-faire, il y avait une vraie histoire qui était beaucoup plus ancienne que les 100 ans. Parce que finalement, l'aéronautique, c'est un peu une start-up aujourd'hui. Hein. 100 ans dans le domaine industriel, c'est rien du tout. 100 ans, quand on parle du premier avion qui décolle. Je reviens à cette idée de la sidérurgie et je dis, mais là-dedans, voilà, je vais mourir. À l'époque, on parlait déjà des premiers transferts en Inde, des premières laminoirs qu'on allait mettre là-bas. Puis aujourd'hui, vous savez où on en est. Et puis, assez rapidement, je suis allé dans l'industrie automobile. Puis l'industrie automobile, les euphories des années 80, 90, une surcapacité pas possible, les Chinois, pas les Chinois, les pays bas coûts. Et puis la catastrophe qui était annoncée depuis déjà une quinzaine d'années, à la fois sur des problématiques de surcapacité de production, mais également sur quelque chose qui est, à mon avis, très important aujourd'hui, c'était les produits qu'il y a sur un secteur industriel comme l'automobile. Mais il y a quand même beaucoup de produits à peu de valeur ajoutée. Pas de produits vraiment très compliqués. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'électronique à bord des véhicules. Les véhicules ont fortement évolué dans le domaine de la sécurité, etc. Mais je dénigre pas le secteur de l'automobile. J'y ai travaillé pendant plus de 15 ans. Mais sur le fond, structurellement, il n'y a pas une innovation majeure. Il n'y a pas des exigences excessives. Aujourd'hui, c'est le prix, quoi. Il faut que la voiture coûte pas cher. On va mettre le minimum de cylindres dedans. Alors il y a bien sûr de la recherche et de l'innovation, mais... Les gens de l'aéronautique et de l'automobile ne sont pas là ce soir, donc je peux le dire. C'est pas un secteur porteur. Et ben pour le coup, on est confronté à toutes les problématiques de délocalisation, les problématiques de surcapacité en Europe. Et moi, qui étais dans l'industrie automobile il y a encore 7 ans, qui ne connaissais rien à l'industrie aéronautique, mon problème à l'époque, c'était de dire, voilà, moi qui suis ingénieur, je vais faire ça, plutôt mécanicien, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être en permanence en train de fermer des sites de production en France, être trimballé entre la Chine, la Tchéquie, si ce n'est pas la Tchéquie, c'est le Vietnam, si ce n'est pas le Vietnam, c'est le Maghreb, etc., pour monter des usines de production pour des produits à faible valeur ajoutée. Et la question que je me suis posée, c'est mais quels sont les secteurs qui sont porteurs aujourd'hui de technologie, d'innovation? Eh bien, il y avait dans le domaine de la mécanique, il y avait le médical, l'activité biomédicale, tout ce qui est insert, etc., et puis l'aéronautique. Et donc, je suis allé naturellement vers le secteur de l'aéronautique en ayant une démarche d'entrepreneur, c'est-à-dire en rachetant une petite société et en me disant, voilà, là, il y a des produits à forte valeur ajoutée. Si je suis innovant, si je me base sur ces secteurs-là, alors j'ai un avenir sans pour autant être obligé de transférer mes unités de production en Asie ou ailleurs. Et là, c'était une sensation, c'était une volonté industrielle au départ. Et elle a été rejointe au cours de ces dernières années par un secteur qui est en pleine explosion. Explosion dans le sens positif du terme. Il faut savoir, comme le disait Jean tout à l'heure, que quand dans l'automobile, on parlait de la production à la semaine. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, le mois prochain? Quelles vont être les mesures gouvernementales pour inciter à vendre un machin, un truc? On n'est pas là-dedans dans le domaine de l'aéronautique. Dans l'aéronautique, aujourd'hui, en ce moment, on travaille sur des avions qui vont sortir, qui sont déjà vendus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de la 320 Neo, le Boeing 737 Max. C'est des avions dont, dans la presse, on en entend pratiquement tous les jours. Et on en a vendu 10 là, et on en a vendu 100 là. C'est des avions qui sont encore au stade, pour certains, du dessin. Donc aujourd'hui, on est en train de dessiner des avions qui sont déjà vendus. Un truc de fou. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a un secteur qui est en pleine explosion. Alors, qu'est-ce qui est intéressant aussi là-dedans? C'est que ces avions-là sont porteurs de plein d'innovations technologiques. Il y a du composite, il y a de l'allègement, il faut qu'on consomme moins, il y a des problématiques de son, de bruit, des problématiques électroniques. Enfin, on a tous les problèmes du monde. Ceux qui veulent des problèmes vont dans l'aéronautique, ils en auront. Mais les problèmes sont porteurs d'heures de travail, sont porteurs d'innovation. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous avez un secteur qui est en forte croissance sur les avions actuels. Vous avez un secteur qui se renouvelle avec de nouveaux avions, l'A350. On parle du 787 beaucoup en ce moment avec les problématiques qu'il peut avoir. L'A380 qui rentre dans sa phase de maturation. Le 737 MAX, on l'a parlé tout à l'heure. Le remplaçant du Falcon, le futur SMS. Je ne parle pas des avions de chez Bombardier. Et alors, bon, voilà, je vous mets tout ça en vrac hein, pour vous donner un petit peu aussi ce qui se passe dans le secteur de l'aéronautique, c'est-à-dire cette profusion d'activités et de programmes et de projets. Alors, il y a de la prod, il y a de la recherche, il y a de l'innovation. Enfin, on a tout ce que l'on veut. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, les contraintes que l'on a aujourd'hui, moi, mon problème aujourd'hui, si je vous sortais mon tableau de bord industriel, je suis en retard. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de mes clients ici. Je suis en retard de production sur toutes mes productions. Alors, quand j'ai mes collègues dans l'automobile qui disent « Je ne sais pas comment je vais faire à gérer mon chômage partiel parce que je suis en retard partout. » Je n'ai pas assez de machines, je n'ai pas assez de collaborateurs. Après, j'ai d'autres problèmes, je n'ai pas assez d'argent pour acheter toutes les machines qu'il me faudrait pour répondre à ce marché en ce moment. Donc, on a besoin de collaborateurs, on a besoin de gens qui vont être sur la partie études, des gens qui vont être sur la partie production. Mais une fois que je vous ai dit tout ça, tous ces avions qui volent, là, 100 ans, c'est rien. Et puis en réalité, c'est 30 ans, vraiment, ou 40 ans. Mais tous ces avions-là, on ne va pas les foutre à la benne hein, quand ils vont arriver à un certain nombre de vols. Il faut les entretenir. Il va y avoir de plus en plus d'avions qu'il va falloir produire et de plus en plus d'avions qu'il va falloir entretenir. Alors, je ne vous ai pas donné de chiffres parce que je dis voilà. Ce que je veux simplement vous donner, c'est le sentiment d'un industriel qui aujourd'hui est confronté à des problèmes majeurs qui est « je ne sais pas livrer ». Je ne sais pas comment demain je vais pouvoir acheter les machines pour suivre les programmes de production qui sont en train d'augmenter. Je ne sais pas comment demain je vais pouvoir produire parce que je n'ai pas assez de salariés formés dans le domaine dans lequel je suis. Donc si vous étiez, si vous êtes là ce soir, c'est que quelque part la fibre aéronautique vous porte, ou par passion, ou par intérêt, ou par connaissance. Mais sachez que le monde industriel a besoin, aujourd'hui vous savez c'était un peu comme... Les Américains, oui, on a besoin de vous. On a besoin aujourd'hui de forces intelligentes pour rentrer dans un secteur qui est plein d'innovation et de forces productives. Alors, une fois que j'ai dit ça, les contraintes sur lesquelles il ne faut pas quand même se masquer. On est protégé actuellement par des problématiques de technologie pointue. On va faire des produits compliqués sur des petites séries. Vous avez vu, ce qui est sympa quand même dans cette présentation, c'est que l'homme reste encore dans l'industrie automobile au centre. C'est-à-dire que quand vous voyez une ligne de production automobile, je dis automobile,
oui,
donc je me suis trompé. Dans l'industrie automobile, encore une fois, je vais taper dessus, mais dans l'industrie automobile, les lignes d'assemblage, en termes de robots, en termes d'automatisation, c'est quand même très pointu. Vous avez peu d'hommes sur les lignes. Bon. Dans une ligne aéronautique, vous avez vu le nombre de personnes qui est là en train de poncer, on dirait des artisans. Alors, il y a des systèmes très automatisés, mais il y a une part qui est laissée encore à l'homme et à l'humain, et à mon avis, qui va rester pendant encore pas mal d'années, qui laisse la place au milieu de tout ça.
Si, c'est une première chose. Si je peux me permettre, c'est le dernier secteur dans lequel on parle de compagnons.
Oui.
Chez Dassault en particulier.
Tout à fait. Chez Dassault, on parle toujours de compagnons. On parle toujours de compagnons. Donc, on a un besoin de personnes. J'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est à faute de gens. Voilà. Bon, en gros, on a besoin d'hommes. Oui, il y a beaucoup d'avions aussi qui sont en train de voler. Il va falloir les entretenir. Il va falloir faire ce qu'on appelle de la maintenance aéronautique. Enfin, tout ça pour vous dire que dans le secteur, ça y est, j'ai retrouvé. Dans le secteur, il nous faut des hommes qualifiés et c'est pas facile à trouver. Donc ça, c'est une première problématique. Deuxième problématique, c'est vrai que c'est un secteur, il ne faut pas le négliger, qui est quand même soumis à la mondialisation. On est quand même déjà aujourd'hui à voir des avions chinois qui sont en train de se préparer pour faire des avions, je parle du parti civil, hein, je ne parle pas de la partie militaire, qui sont déjà en train de se préparer. On fait des moteurs qui vont être communs entre les Airbus, les Boeing et les avions chinois. Donc il y a bien une mondialisation qui est en train de s'opérer. Dans le reportage, enfin dans le film, on parlait bien de la connaissance de l'anglais. Bon, c'est des éléments importants, mais je dirais aujourd'hui, dans le domaine de l'industrie en général, il faut essayer de parler autre chose que simplement le français. C'est fondamental. L'anglais étant vraiment très important, mais quelqu'un qui va parler l'arabe, quelqu'un qui va parler le chinois, quelqu'un qui va parler l'espagnol, quelqu'un qui va parler le portugais, ça servira toujours de toute façon, sachez-le, la langue, les langues, c'est toujours un élément, j'oublie l'aéronautique, un élément différenciant quand vous vous présentez devant un employeur ou quand vous êtes en phase d'une promotion. La langue, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc je voulais bien souligner quand même le fait qu'il y a une mondialisation aujourd'hui, que ce n'est pas un secteur qui est tout simple pour ça. Je veux dire, on a le temps de voir venir les choses. Encore une fois, les programmes aéronautiques sont des programmes à long terme. On travaille aujourd'hui sur des avions qui vont sortir en 2016-2017 et qui vont monter en production en 2018, sur lesquels les commandes sont déjà enregistrées sur 2020-2022. Enfin, un truc, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? L'aéronautique, pourquoi pas ? Vous ne posez pas la question si vous avez envie de travailler dans l'industrie, dans laquelle l'homme est encore au centre quand même de l'activité. Il y a du boulot, donc il y aura des embauches. Plus vous serez qualifié, plus ça sera intéressant. Et plus vous serez mobile aussi, plus ça sera intéressant. Dernier point, et là je vais parler plus pour les PME, TPE, ne négligez pas les petites entreprises dans des systèmes d'alternance, d'apprentissage, ou pour les jeunes ingénieurs aussi, vos stages, faites vos stages dans les PME, dans les TPE, dans les ETI qui sont les entreprises un peu plus grandes, parce que là vous aurez aussi la possibilité d'être encore plus au cœur, en termes d'hommes, du système de fonctionnement. Tiens, les grandes boîtes, si Guy Gursiaux, qui est le patron de la Sogerma, était là, il me taperait, mais la Sogerma, la Snecma, etc., Thales, c'est génial, si vous pouvez y rentrer, allez-y. Mais ne négligez pas les petites sociétés qui peuvent vous permettre de bien toucher l'ensemble du fonctionnement d'une société et puis qui vous permettront plus facilement encore de vous mettre en avant et de vous mettre en valeur. Voilà, donc l'aéronautique, il faut y aller. Les PME, ne nous oubliez pas. Et puis après, je suis là pour vous répondre si vous avez des questions concrètes une fois que mes collègues seront intervenus. Voilà.
Bien, Sylvain, merci pour ces données très, très convaincantes et très enthousiastes, comme tu sais le faire et comme tu l'as toujours fait et de plus en plus. Je suis désolé d'avoir interrompu cette montée croissante là qui était... presque l'apothéose, mais je pense que
Il y a des turbulences des fois.
Oui, puis je pense que tu as gardé quelques cartouches pour la suite. Est-ce que Joël Michelin, tu pourrais, dans la foulée, nous donner un petit peu un aperçu des moyens de se former pour parvenir à ces métiers. Moi, ce que j'ajouterais quand même, c'est que même si les métiers qui sont mentionnés en partie dans le film sont des métiers de très haute technologie, donc on a besoin d'intelligence, etc., on a également besoin de métiers, de gens sur des métiers qui sont qui sont un peu discrédités, hein, des métiers de soudeur, des métiers d'assembleurs, des métiers qui restent nobles et qui ne nécessitent pas non plus un niveau d'études complètement élaboré. Mais je pense que Joël, tu vas pouvoir expliciter ce que je viens de dire en deux mots.
Bien, d'abord, bonjour à tous et puis bonjour aux jeunes, puisque nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont venus en tout cas nous écouter. D'abord, quelques mots, dire d'où je parle et quel est mon métier. Alors, DAFPIC, ça ne veut rien dire, mais bon, quelques mots. Je suis sur une fonction conseil pour des décideurs. Mon patron, c'est le directeur d'académie, donc c'est lui qui décide, effectivement, dans un certain nombre de domaines. Donc, mon métier, ça consiste, si vous voulez, c'est une fonction conseil. Ça consiste à créer des synergies entre des entreprises qui ont des besoins, des établissements de formation qui ont des plateaux techniques et des ressources, des experts qui sont capables de conseiller pour la mise en place de ces formations. On a dans la salle quelques collègues chefs de travaux, inspecteurs, donc je les salue ce soir. Et puis on a évidemment des enseignants qui sont là pour effectivement se former eux-mêmes pour répondre aux enjeux de la formation. Alors c'est un métier passionnant, mais c'est aussi un métier assez frustrant parce que les projets que vous portez sont pas forcément des que vous portez parfois pour les autres sont pas forcément des projets qui aboutissent parce que vous savez bien qu'après les décisions sont souvent des décisions qui relèvent soit de moyens financiers qu'on a ou qu'on n'a pas, soit de décisions politiques sur lesquelles bien le projet qu'on avait défendu pour 2013 sera peut-être pour 2014 ou peut-être pour 2015. Donc c'est un métier assez frustrant mais assez passionnant. Pour faire le lien entre rentrer dans ce domaine un peu de la formation, je dirais que c'est un autre paradoxe, si vous voulez. C'est le métier que je fais, c'est le métier un peu d'une relation impossible entre, on va dire, la formation et puis l'emploi. Y a-t-il, peut-on faire une relation entre la formation et l'emploi, et vous avez vu tout de suite la difficulté que ça va poser, parce que le temps de la formation, c'est un temps long. vous voulez former un ingénieur, ben, c'est un temps long parce que c'est de 5 à 8 ans, hein, selon le niveau de compétence que vous attendez de lui. Et si en plus vous associez à sa formation une fonction recherche, donc forcément c'est un temps long. Vous voulez former un technicien, ça dépend du niveau. Ça, vous avez entendu parler dans le film de CAP, de Bac Pro, on pourrait ajouter de BTS ou autre. Alors si c'est un CAP, c'est 2 ans. Si c'est un bac pro, c'est 3 ans. Si c'est un BTS, après le bac, on rajoute 2 ans. Si c'est une licence professionnelle, on rajoute encore une année. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le temps de la formation, c'est nécessairement un temps long, hein, qui est celui d'amener un jeune à un certain niveau de qualification pour répondre aux besoins de l'entreprise. Or, l'entreprise, elle a, vous l'avez vu, elle a des besoins immédiats qui sont sur un temps court. Hein, elle a besoin parfois de 350 techniciens parce que on est dans la construction d'un type d'avion. Donc c'est assez compliqué en réalité de relier, hein, le temps de la formation et le temps de la production. Et pourtant, il faut essayer d'anticiper, hein, sur les besoins qu'auront les entreprises demain. Et c'est tout le paradoxe un peu de notre débat de ce soir. Voilà un peu pour faire le lien entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation. Alors, quelques mots peut-être pour les jeunes qui sont là. Je vais dire un mot sur les modalités, un mot sur les domaines, les secteurs, et puis peut-être un mot sur les métiers, les niveaux. Et puis après, peut-être, on regardera avec le petit diaporama que Patrick vous a préparé, hein, ce que sont les ressources dans notre territoire. C'est-à-dire que si vous êtes un jeune habitant Poitiers, habitant Rochefort, habitant La Rochelle, hein, dans votre environnement le plus proche, quels sont le type de formation que vous pouvez trouver et sur lesquelles vous pouvez vous engager. Donc vous l'aurez compris, une formation, c'est un site, des formateurs, des plateaux techniques, des moyens, et tout ça, ça prend un petit peu de temps. Alors les modalités. Alors vous êtes jeune, vous pouvez bien entendu, en sortant de troisième, choisir une modalité scolaire, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement le statut scolaire, c'est-à-dire que vous choisissez d'être dans un lycée professionnel, dans un lycée général et technologique, et ensuite l'université, et là vous êtes à temps plein, donc sur une formation, c'est une modalité. Mais vous pouvez aussi être quelqu'un qui a envie d'avoir une certaine autonomie et de pouvoir avoir déjà un salaire qui va augmenter au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre formation. Et vous dites à ce moment-là, je choisis de faire ma formation par apprentissage. Donc simplement, le problème que ça pose, c'est que, un, il faut trouver une entreprise qui accepte de faire votre contrat de travail. Et puis, deuxième chose, il faut bien entendu, après, vous tourner vers un centre de formation. Ça peut être un CFA, mais ça peut être aujourd'hui un lycée général ou technologique, un lycée professionnel. Hein, nous avons dans à l'Éducation nationale, dans le réseau des lycées, hein, nous avons plus de 1000 jeunes aujourd'hui qui se forment par l'apprentissage en Poitou-Charentes, alors que nous en avons 15 000 sous statut scolaire en filière générale. Nous en avons 15 000 en apprentissage en région Poitou-Charentes. J'ajouterais 5 à 6 000 jeunes qui sont dans les formations de techniciens supérieurs, 60 000 étudiants, ça vous donne un peu le paysage picto-charentais, hein, que nous trouvons. Donc vous choisissez une modalité, mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que dans la vie, c'est jamais fini, et par conséquent, si vous avez plus de 26 ans et que vous êtes engagé dans la vie professionnelle, vous pouvez sortir, en tout cas, à un niveau de formation, à un CAP, mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez reprendre une formation, vous pouvez décider à un moment donné de vous qualifier et d'avoir une nouvelle certification. Donc vous vous engagez par la formation continue pour préparer un nouveau diplôme. Et puis même si vous ne vous souhaitez pas vous engager directement par un nouveau diplôme, il faut le savoir, on le dit pas assez, mais vous avez la possibilité de faire reconnaître vos compétences et d'acquérir un certain niveau de qualification reconnu, hein, par ce qu'on appelle la validation des acquis d'expérience. Donc vous voyez, dans les modalités, en réalité, on vient d'en passer 4 en revue, hein, statut scolaire, apprentissage, formation continue, la VAE. Bon, tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que vous entendez, hein, plus particulièrement, hein, ce qu'on désigne par la formation tout au long de la vie. Voilà. Alors, voilà pour quelques mots sur les modalités, pour vous dire quelque part, quel que soit votre âge, en réalité, à tout moment dans la vie, hein, vous pouvez acquérir de nouvelles qualifications et pourquoi pas faire de nouveaux métiers. Et je crois que ce que disent de plus en plus les experts, c'est que nous aurons, enfin les hommes de demain feront 3-4 métiers successifs, hein, dans leur vie professionnelle. Les domaines, alors les domaines, quand on est jeune, on se dit mais quel domaine m'intéresse, et vous allez voir, déjà vous l'avez vu dans le film, vous pouvez être intéressé par le secteur industriel, mais vous pouvez être aussi intéressé par le secteur des services, et vous avez déjà vu que dans l'aéronautique, hein, on peut être dans le secteur industriel, mais on peut être aussi dans le secteur des services. On peut être aussi dans le secteur commercial et même le secteur technico-commercial. C'est-à-dire qu'on peut être effectivement dans un réseau de vente où on va faire la promotion d'équipements qui sont destinés à l'aéronautique et où on va vendre un certain nombre de produits qui vont être à destination de l'aéronautique. Donc vous le voyez, je colore volontairement ce paysage parce que dans le film, hein, on avait une coloration très industrielle et très service, mais après tout, vous pouvez choisir de regagner l'aéronautique, mais pas forcément par l'industriel ou les services, mais aussi par la fonction commerciale ou la fonction technico-commerciale. Après, il y a les métiers et les niveaux. Et là, c'est vrai que si, en tant que jeune, vous avez envie d'être dans la conception, eh bien, c'est vrai que si votre choix est d'être dans la conception, alors il vous faudra sans doute un parcours long, parce que être dans la conception, si, ça veut dire qu'on s'oriente vers des métiers d'ingénieur, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans les, dans, comme vous l'avez vu, dans, dans l'aérostructure. Si vous voulez être dans la conception, il va falloir aussi que vous alliez, pourquoi pas, être architecte logiciel. Vous êtes un passionné du domaine numérique, vous pouvez aussi travailler dans le domaine numérique et rejoindre par le numérique les métiers de l'aéronautique à travers une approche conception. Vous pouvez être aussi ingénieur aérostructure. Donc vous le voyez, si c'est un peu votre sensibilité qui est à définir. Donc voilà pour la fonction conception, mais revenons sur la fonction production. Vous pouvez être aussi être un programmateur, un opérateur, un soudeur, un tourneur-fraiseur, un ébarbeur, ébavureur. Donc, vous voyez, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a des métiers extrêmement nouveaux, extrêmement, même des énigmes, qui vont être dans la fonction production. Et puis, tout à l'heure, j'évoquais les fonctions support de production, mais vous pouvez être responsable achat, chargé d'affaires, technicien des méthodes, responsable qualité. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez rejoindre la fonction commercialisation, vous pouvez être un technico-commercial, avoir votre voiture et puis aller, évidemment, à travers les entreprises de la région pour, évidemment, faire la promotion des produits de votre entreprise. Donc, conception, production, support de production, commercialisation, voilà, quelque part, tous les métiers dans lesquels vous pouvez aller. Donc, j'ai envie de vous dire que, pour conclure sur ce premier point, le monde de l'aéronautique est en fait un monde extrêmement divers où, si c'est un univers qui vous fait rêver, en réalité, vous le voyez, il y a une multitude de métiers, hein, qui vont vous être possibles et qui vous permettent de vous engager dans un parcours. Et puis, retenez ça, quel que soit le niveau de qualification que vous allez acquérir, hein, aujourd'hui, lorsque vous sortirez d'une formation, que cette formation soit un CAP, un bac professionnel, un BTS, une licence professionnelle ou un diplôme d'ingénieur, vous aurez toujours la possibilité de poursuivre des études, que ce soit par la formation initiale, la formation continue ou la VAE. Donc ça, je crois que c'est très important. Quelque part, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, rejoignez l'aéronautique, quel que soit le métier ou le domaine qui vous plaît, hein, et vous verrez que vous trouverez des métiers, hein, à tous les niveaux. Alors peut-être deuxième partie, en tout cas, et là je vais céder la parole à Patrick, quelles sont les ressources de notre territoire picto-charentais, quel type de formation trouvons-nous, vers quel type de métier ces formations vont-elles ? Alors, Patrick, je te cède la parole pour cette partie.
Merci, messieurs. Merci, Joël. Alors, pour compléter ce que vient de vous être indiqué donc, jusqu'à présent, on va partir de ce petit schéma qui illustre un petit peu tout un cycle. En partant de la commande, naturellement, à partir de cette commande, il va falloir concevoir. C'est le travail de bureau d'études, de recherche et développement. Il va falloir mettre au point un prototype, faire des essais. Donc on voit qu'il y a donc différentes compétences à mettre en œuvre, des ingénieurs qui interviennent, mais pour aider les ingénieurs, il y a des techniciens également. Donc ensuite, une fois qu'on a effectué les essais, que le prototype est mis au point, il va falloir lancer une phase d'industrialisation. Donc là aussi, il y a différents services qui rentrent en ligne de compte, donc des métiers et des diplômes donc, et des parcours de formation qui vont correspondre. Il va falloir définir les opérations, outillages de production. Ensuite, on va passer à la phase de production. Il faut fabriquer, assembler. Donc beaucoup de tâches qui vont exister, plusieurs métiers dans la phase de production. Donc on va pouvoir en détailler un certain nombre. Et puis, une fois que l'assemblage est terminé, on est sur la phase ensuite, naturellement, de livraison au client. A été précisé tout à l'heure également tout l'ensemble des services support sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais qui sont représentés ici au centre de ce schéma. Donc là, c'est le point de départ. Et ce que je vous propose, c'est de décliner, de répondre à la question qui est posée ci-dessous. Donc collégiens, lycéens, quel parcours de formation choisir pour exercer un métier dans l'industrie aéronautique ? Donc, et viser avant tout ici plutôt des parcours de formation liés à la formation initiale. Ça peut être l'apprentissage comme la voie scolaire. Nous répondrons aux questions s'il y en a sur la formation professionnelle continue, bien entendu. Donc voilà les différents parcours, déjà en sortant du collège. Après la classe de 3e, donc il y a trois possibilités. On peut aller vers la voie professionnelle, et là on peut préparer un CAP, donc en 2 ans, un bac pro, et là il y a donc naturellement un choix de spécialité à effectuer. En sachant que le bac professionnel, maintenant, c'est 3 ans à l'issue de la 3e. Autre choix possible, on passe par une seconde générale et technologique, c'est un palier en quelque sorte d'orientation, et derrière va se faire le choix de la série du bac. Soit on est sur un bac technologique, ou un bac général. Effectivement, si on veut se diriger vers des métiers de l'aéronautique, on va choisir éventuellement le bac technologique STI 2D. Donc là, c'est un bac technologique nouveau. Il y a une rénovation tout à fait récente. Ou alors un bac S. Dans le bac S, on a possibilité de choisir une option sciences de l'ingénieur, SI. On répondra aux questions, hein, s'il y a des questions très précises ou particulières sur ces choix-là. À l'issue d'un baccalauréat, on peut naturellement poursuivre ses études. Et là, donc, il y a plusieurs cycles qui existent, des cycles courts ou des cycles plus longs. Donc, première possibilité, aller vers un BTS, donc 2 ans après le bac. Donc, soit à l'issue donc, d'un bac techno STI 2D ou à l'issue d'un bac pro. Quelle que soit la spécialité, les choix sont nombreux et multiples, on y reviendra tout à l'heure. On peut choisir éventuellement un DUT. Dans ce cas-là, généralement, c'est après un bac technologique, voire après un bac S. Il y a la licence, le master que l'on peut préparer, hein, bac plus 3, bac plus 5, et là, on est plus sur un cycle universitaire que j'appellerais donc de classique. Il existe, on en a parlé tout à l'heure, les licences professionnelles, donc qui peuvent exister, par exemple, juste après un BTS ou après un DUT. Donc c'est un bac plus 3. Il y a également donc tout ce qui est préparation pour l'entrée aux écoles d'ingénieurs. On pourra en parler aussi tout à l'heure au niveau de l'ANSMA, les possibilités pour préparer un diplôme d'ingénieur. Alors là, il y a soit des classes préparatoires spécifiques après le bac, ou alors il existe des admissions possibles après donc un diplôme bac plus 2, BTS ou DUT, ou bien alors après une licence. Donc plusieurs possibilités existent. Alors, une information importante sur la filière spécifique aéronautique. Il faut savoir qu'actuellement, elle est en phase de rénovation. On va parler de filière professionnelle aviation. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un contexte européen. Et précédemment, il faut savoir qu'il y avait un bac professionnel donc en 3 ans qui était donc décliné sous forme de 3 spécialités. Et le changement sera le suivant, c'est qu'il n'y aura qu'un seul bac professionnel concernant l'aviation avec 3 options. Donc il y a un travail en ce moment qui s'effectue au sein du ministère les CPC, les commissions paritaires consultatives, professionnelles consultatives y travaillent actuellement. Il y aura donc trois options, une option avionique, une option système, une option aérostructure. Alors je vais me tourner vers mon collègue Monsieur Franck Anxionaz, qui va peut-être me confirmer que c'est peut-être pour la rentrée prochaine ou il faudra peut-être encore attendre une année.
Après, dès que ça arrivera. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura bien maintenant les trois options jusqu'à ce que les branches professionnelles changent d'avis, comme on l'a déjà vu dans d'autres métiers. Mais a priori, on aura toujours les trois options.
Merci. Alors maintenant, je vous propose de rentrer dans la cartographie pour vous présenter les différents diplômes, les différentes formations par, on peut dire, plateau métier, par grand secteur ou grand service. La première partie concerne BE, bureau d'études, R&D, recherche et développement, et la partie essai. Donc, alors en sachant que j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais il n'y a pas forcément l'ensemble des diplômes correspondant donc à ces services, puisque j'ai ciblé avant tout ce qui était le département de la Vienne, et j'ai surtout complété sur des formations diplômes BTS pour les autres départements, principalement. Donc, par rapport à ces métiers, il y aura donc différents diplômes accessibles. Sur le département de la Vienne, en l'occurrence, sur le lycée Branly-Lille, on a un BTS, donc CIM. Alors, je vais vous préciser ce que ça signifie. Donc, c'est conception, industrialisation en microtechnique. Parce qu'on est très fort au niveau de l'éducation nationale, en l'occurrence, sur les sigles, les acronymes. Donc, j'essaierai à chaque fois de vous apporter les précisions. Concernant l'ANSMA, je vais peut-être me tourner vers Jean Tanzi, qui va pouvoir peut-être nous donner quelques précisions sur les diplômes d'ingénieurs qui seront préparés au niveau de cette école.
Oh oui, non, mais c'est très simple. D'abord, l'ANSMA, il y a une petite faute de frappe là, c'est ISAE, ANSMA. Bon, il y a trois grandes écoles d'aéronautique en France. Hein. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'ISAE, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, qui a regroupé SUPAERO et l'ENSICA à Toulouse. Il y a également l'ENAC et puis il y a l'ANSMA. Et il se trouve que tout ce beau monde est en train de se regrouper sous le label ISAE. Hein, donc l'ANSMA est affilié maintenant au groupe ISAE. Donc il y a ISAE ANSMA, il y a ISAE École de l'air, il y a ISAE Estaca. Il y a un certain nombre d'autres écoles qui sont en train de s'agglomérer et qui font masse critique. Donc vu de l'extérieur, si vous voulez, en France, les grandes écoles d'ingénieurs en aéronautique sont en train de se regrouper et sont vraiment maintenant visibles sous l'étiquette ISAE. Voilà, je crois que, pour en dire plus, tu as précisé que pour entrer dans ces écoles, c'était soit avec des classes après des classes préparatoires, on passe des concours pour accéder à une de ces écoles que j'ai mentionnées, soit on rentre en deuxième année avec un DUT ou une licence, ou je ne sais plus quel est équivalent. Et voilà, en gros. Et là aussi, une forte propension aujourd'hui à des échanges avec l'international. Hein, donc, il y a beaucoup d'ingénieurs, par exemple, de l'ANSPA qui vont faire une quatrième année aux États-Unis ou ailleurs. Il y a également une grosse interaction avec la Chine, et ça, c'est nouveau, et ça montre bien que. Je ne vais pas revenir à ce qu'on disait au tout début, mais la mondialisation, y compris des cycles de formation au niveau ingénieur.
Merci Jean. Donc si on poursuit maintenant toujours sur le département de la Vienne, au niveau de l'IUT de Poitiers, plusieurs départements sont proposés sur, par exemple, génie, mécanique, production, productique, thermique et énergie, voilà, pour en préciser quelques-unes. Ensuite, département de la Charente, nous avons un CFA, le CIFOP, qui propose un BTS CPI, qui signifie donc conception de produits industriels. On retrouve ce même BTS au lycée Charles-Augustin Coulon à Angoulême, mais cette fois sous statut scolaire, parce que vous avez vu la petite légende dessous. Ce qui est indiqué en rouge, on est en voie scolaire, et ce qui est indiqué, on va dire, de couleur foncée, c'est la voie de l'apprentissage. Sur Sainte, au lycée Bernard Palissier, nous avons la présence, entre autres, ce soir du chef des travaux. Il y a, entre autres, un bac professionnel EDPI. Donc, EDPI qui signifie donc études, développement, définition des produits industriels. Voilà, on va y arriver. BTS CPI, j'en ai parlé tout à l'heure, en l'occurrence. Et maintenant, on arrive sur le département des Deux-Sèvres, le lycée Jean Moulin. Et là, c'est un bac pro également EDPI. Voilà pour brosser la carte et des diplômes disponibles côté éducation nationale principalement sur ces différents services.
Excusez-moi. Monsieur Hier du lycée Marcel Dassault de Rochefort, si je pouvais juste rajouter qu'on a un BTS Europlastique où on a des stagiaires à Dassault, Biarritz, ou des stagiaires chez Potez à Aire-sur-Adour. Donc on a un BTS Europlastique aussi où on a des gens qui sont placés, oui. Et un BTS Outillage où aussi nos outilleurs sont chez EADS.
Tout à fait. Germa. Je ne l'ai pas oublié, il arrivera tout à l'heure.
D'accord.
Sur cette partie-là, alors j'ai travaillé à partir donc de ce qu'on avait mis en place au niveau des plateaux métiers à l'occasion du salon Aérotop. Donc sur la définition, donc les différents établissements avaient été sollicités, j'ai repris cette classification qui avait été proposée à cette occasion. Donc voilà pourquoi on ne trouve pas, mais effectivement on a certains diplômes qu'on peut retrouver avec des compétences en partie correspondant à donc, certaines activités de ces services. On arrive maintenant sur la partie méthode industrialisation. Donc là aussi, on pourrait peut-être compléter avec d'autres diplômes. Donc sur le département de la Vienne, on retrouve sur le lycée Édouard Branly de nouveau le BTS CIM hein, que j'avais cité précédemment. On retrouve aussi donc des formations au niveau de l'IUT de Poitiers avec différents types de génie, entre autres mécanique production, soit voie scolaire ou apprentissage. De nouveau, sur le CFA de la CIFOP, cette fois en Charente, le BTS IPM, qu'on avait entre autres cité précédemment. Et là, on arrive sur le lycée donc Marcel Dassault. Et là, on est sur le Bac Pro technicien aérostructure. Et on complète avec le BTS IPM sur le lycée Jean Moulin. On arrive maintenant sur la partie production. Alors sur cette partie production, on va commencer par l'électronique et la partie électricité. Donc si j'avais indiqué l'ensemble des diplômes, surtout bac professionnel, que ce soit sur le secteur électronique, électrotechnique, on ne verrait plus la carte. Donc naturellement, j'ai fait quelques choix en fonction effectivement d'une part du département de la Vienne et surtout de l'association bac pro, si possible, avec BTS. Donc sur le département de la Vienne, là on est complet en termes de formation proposée. Donc sur le secteur de Châtellerault, nous avons deux diplômes de proposés dans ce secteur-là. Sur le lycée professionnel Le Verger, on est sur un bac pro, on va dire pour être plus simple, concernant l'électrotechnique. Et sur le lycée Édouard Branly, c'est un bac pro SEN, c'est système électronique numérique. Lycée Loirement à Poitiers, toujours un bac professionnel système électronique numérique. Complété par un BTS système électronique. Donc là, on peut avoir une continuité de parcours. Et enfin, donc, un bac professionnel électrotechnique. Et sur l'IUT de Poitiers, on a du génie électrique, en l'occurrence. Le complément, donc, au niveau de la Charente, donc, sur deux établissements, un CFA et le lycée de Coulon. Je vous laisse aussi découvrir donc, la formation qui existe sur le lycée Bernard Palissy, qui est un BTS électrotechnique. On retrouve ce même BTS au lycée Paul Guérin de Niort. Maintenant, nous arrivons à la production métallurgique. On est sur le secteur de la chaudronnerie. Un établissement se dégage au niveau du département de la Vienne. C'est le lycée Réaumur, où nous avons deux représentants là ce soir, entre autres le proviseur que j'ai croisé tout à l'heure et également le chef des travaux. Donc on a trois formations, donc là on a tout un cycle assez complet, on va dire. Il manquerait quasiment un BTS pour avoir bouclé la chaîne en quelque sorte. Le CAP RCI, c'est un CAP réalisation chaudronnerie industrielle. On a un bac professionnel technicien chaudronnerie industrielle et une mention complémentaire de soudage, qui connaît donc un succès important, puisqu'on n'a que deux sections uniquement sur l'ensemble de l'académie. Une donc sur Poitiers au lycée Réaumur et la deuxième se trouve donc au lycée Léonard de Vinci à Bressuire. Et on peut découvrir donc sur les autres départements les différentes formations qui existent. Je vais peut-être insister sur les BTS qui permettraient une poursuite d'études. C'est le BTS CRCI qui se trouve entre autres au lycée Paul Guérin. Donc c'est conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Et on le retrouve également sur le CFA du CIPECMA, donc du côté de Châtelaillan. par apprentissage. Donc. Toujours dans la partie production, mais cette fois plus mécanique, usinage, essais, contrôle. Donc là, on a aussi un nombre assez important de bacs professionnels, techniciens d'usinage. On a également donc, des formations proposées au niveau de l'IUT de Poitiers. Au niveau des BTS, donc plusieurs BTS sont relatés au niveau de cette cartographie. On retrouve industrialisation des produits mécaniques, qui avait été déjà cité dans d'autres services, dans d'autres métiers précédemment. Conception et industrialisation en microtechnique, donc ça c'est sur le lycée Édouard Branly. Donc on voit sur le département de la Vienne principalement, donc deux lycées et l'IUT de Poitiers. Alors, je vais quand même revenir sur une des formations que l'on trouve au lycée Marcel Dassault. C'est le bac professionnel technicien d'usinage, puisqu'on est dans le cadre d'un label. Un label un peu local, on va dire, avec une coloration aéronautique. C'est un label alors local, là, je vais préciser la dimension, avec une dimension académique, tout à fait. Oui. Non, très bien. Ouais. Ouais. La partie composite, production composite. Donc effectivement, là, on a un seul établissement. C'est-à-dire que c'est important que j'ai cette diapo pour bien montrer ce qu'on peut faire encore uniquement à Dassault, donc au lycée de Rochefort, puisque là, on a toute une série de formations. On part du CAP et on va jusqu'au BTS. Dans la partie composite, plastique. Donc le CAP, CPC, c'est composite, plastique, chaudronné. Ensuite, le bac pro, PC, bah, c'est plastique, composite. Et enfin, le dernier, donc, que j'ai simplifié un petit peu en termes d'écriture, BTS, industrie plastique, europlastique. Donc là, on a toute une filière qui est mise en place sur cet établissement, en partant du CAP jusqu'au BTS. On arrive maintenant dans le secteur de l'entretien, de la maintenance. Alors, deux types de maintenance. Il y a la maintenance, effectivement, sur les systèmes, les avions, en quelque sorte. Et après, un autre type de maintenance, qui est plus une maintenance industrielle, sur des équipements, des installations au sein des entreprises. Donc, pour la partie maintenance sur avion, on n'a qu'une seule formation, qui se trouve donc au cours d'enseignement technique de l'armée de l'air à Saintes. Et c'est le bac professionnel... Donc aéronautique, et c'est l'option maintenance système cellule. Donc ce fameux bac pro qui doit être prochainement, entre autres, rénové, en cours de rénovation. Et pour les autres diplômes, ce sont des diplômes liés à la maintenance industrielle. Donc nous avons principalement des bacs professionnels, en nombre suffisant, on va dire. Et puis d'associés, on a quelques BTS, maintenance industrielle. Alors je précise que MEI pour les bacs pro, ça signifie maintenance des équipements industriels. Et pour le BTS, tout simplement, maintenance industrielle. Donc on se rend compte qu'au niveau du département de la Vienne, on a donc une carte des formations suffisamment garnie. Et après, j'ai surtout insisté sur d'autres BTS, sur les autres départements. Voilà, et j'en ai fini sur cette présentation.
Alors, avant de perdre le fil et avant de vous proposer d'intervenir avec tout ce qui a été dit et qui est effectivement très étoffé, moi, la question que je me pose comme ça, tout le catalogue que tu viens de nous exposer, qui est extrêmement bien documenté, où est-ce qu'on peut le retrouver pour les gens qui, une fois sortis, se diront « Tiens, j'ai pas eu le temps de tout noter ». Où est-ce qu'on peut retrouver en ligne ou ailleurs toutes ces informations ?
Sur le site académique.
Oui, entre autres. Bon, c'est une ressource qui pourrait être disponible. Mais lorsqu'on se pose des questions sur des parcours de formation, en lien avec des métiers, il y a un site qui est une ressource intéressante et importante. C'est le site de l'ONICEP. Et là, il y a des moteurs de recherche. Vous êtes guidé. Et à partir donc, d'un mot-clé, vous allez pouvoir trouver la formation qui correspond. D'accord ? Vous allez pouvoir la situer, la géolocaliser, savoir le nombre de formations qui existent sur une académie, savoir également si c'est par la voie scolaire, si c'est par l'apprentissage. Donc là aussi, c'est une possibilité d'utiliser donc, le site de l'ONICEP. Mais naturellement, toutes ces ressources-là pourront être disponibles
Je vais passer la parole à Françoise Guillemant, dont j'ai oublié de dire qu'elle représentait ici la co-organisation de la soirée, puisque Françoise Guillemant représente l'association régionale pour la formation tout au long de la vie, l'ARFTLV. Et je pense que c'est important de le dire, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Et Christine Cavaillé est également présente et qui représente cet organisme. Je pense que tu voulais ajouter quelque chose, Françoise.
Oui, quelque chose de très très pratique justement pour répondre sur les formations, c'est-à-dire que en complément des formations initiales, nous on a repéré au niveau de l'agence régionale tout ce qui était un peu plus formation continue et formation pour les demandeurs d'emploi, donc les certifications, y compris l'apprentissage dans ce domaine-là. Donc moi j'ai fait des petits tirages papier, là aussi vous n'y trouvez pas nécessairement tout, mais c'est ce qui correspondait le plus à notre sujet de ce soir. Par ailleurs, vous pouvez retrouver les éléments de la formation initiale comme de cette formation continue dont je viens de parler sur le site de l'Agence régionale de la formation. Donc, vous tapez http, etc., www.arftlv.org. Vous avez, j'ai mis des petites cartes avec un sigle qui s'appelle Horizon. C'est une ligne Horizon. Donc là, c'est un numéro de téléphone si vous êtes embêté un jour. C'est le 05 46 00 32 33. C'est facile à retenir. Vous avez les petites cartes aussi. Parce que je crois qu'à chaque étape, à chaque parcours, ce qui est important, c'est d'avoir le bon contact ou la bonne réponse. Donc, toutes ces ressources, que ce soit au niveau académique ou que ce soit nous, sur tout ce qui est formation continue, on a à cœur d'avoir les éléments qui soient le plus facile pour en accès et qui soient le plus pratiques pour vous. Donc, c'est pas du tout. Si je vous donne ces éléments-là, c'est simplement du complément de ce qui vient d'être dit.
Merci, Françoise. Je pense que là, il serait temps de vous laisser un peu la parole parce qu'on vous a asséné beaucoup de vérités évidentes et enthousiasmantes et beaucoup de chiffres, beaucoup de références, mais on aimerait bien finalement que vous posiez toutes les questions que vous pouvez avoir et on est prêt à y répondre.
C'est toujours la première question.
Oui, une fois que la première sera posée, ça ira tout seul.
Je crois que ce qui est intéressant aussi dans la présentation que tu as faite, c'est qu'on retrouve, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il y a les moyens de se former à quelques niveaux que ce soit en région Poitou-Charentes. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était aussi proche des bassins industriels. Parce que le lien, bon, je pense que vous êtes ici à la fois parce que vous posez des questions sur votre formation, mais aussi parce que vous posez des questions sur votre emploi, où je vais travailler demain, à quel horizon et comment. En Poitou-Charentes aujourd'hui, il y a un peu plus de 4000 emplois dans le secteur aéronautique. Il y a des grands groupes industriels, on en a parlé, à Rochefort, il y a la Sogerma, à Châtellerault, il y a la Stecma, il y a Thalès aussi à Châtellerault, il y a Dassault au sud de Poitiers, j'en oublie plein d'autres. Il y a un réseau très très important de PME et de TPE et de PMI. Et vous aurez donc, si vous allez dans le secteur de l'aéronautique, vous aurez de quoi faire aussi sur place. C'est-à-dire que vous aurez de quoi vous former. Et aujourd'hui, encore une fois, on embauche. On embauche aujourd'hui, on embauchera demain. Je suis bien conscient de la problématique du temps. Mais je ne sais pas ce que vous cherchiez ce soir dans une réunion où l'aéronautique, pourquoi pas, si c'était des adresses, vous savez, vous avez les sites. Si vous aviez besoin de la confirmation que l'industrie aéronautique et les services qui sont associés embauchent aujourd'hui, ça, vous pouvez repartir en disant il y a du boulot. Et aussi, il y a du travail. De manière, l'aéronautique est porteuse. On dit, oh là là, l'aéronautique, c'est compliqué, ça vole. Qu'est-ce qu'on a parlé d'ingénieur, ce soir, on a arrêté de parler. Mais moi, dans ma boîte, bon, on est quand même pas loin de 200, on est trois ingénieurs. Hein. Donc beaucoup de techniciens qui ont fait preuve d'expérience, d'un bon savoir-faire, des bacs pro qui ont progressé, de l'alternance qui est venue. Donc c'est pas un secteur non plus, j'allais dire spatial, quoi. C'est pas un truc, c'est de l'industrie. C'est de l'industrie où il faut de la rigueur, c'est de l'industrie où il y a de l'innovation, etc. Mais on a besoin de l'ensemble des formations au sein du secteur aéronautique. Il n'y a pas besoin
que de chercheurs, que d'ingénieurs sortant des grandes écoles, etc. Donc c'est un métier ouvert. Et puis deuxième point que je voulais vous signaler, c'est un métier aussi passerelle, enfin c'est un secteur, c'est pas un métier, c'est un secteur qui est passerelle. Si vous rentrez dans l'aéronautique, c'est sûr que les gens de l'industrie vous regarderont en disant « Oh là là, il a été dans l'aéronautique, la qualité, la précision, etc. » Donc ça ouvre aussi des portes sur les autres secteurs. Mais j'allais dire aussi que on embauche, nous, beaucoup de gens qui viennent de l'automobile aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans l'aéronautique qui passent dans le secteur industriel. Donc c'est pas un choix de vie. C'est aujourd'hui simplement, de manière très pragmatique, un secteur qui embauche. Voilà, moi c'est la dernière chose que je voulais dire. Ça embauche, il y a du besoin. Si ça vous plaît en plus, alors si vous y rajoutez une couche de passion, moi l'avion ça me fait planer, comme qui dirait l'autre, bah, alors venez, parce qu'il y a de la demande. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à la cartographie. Et en Poitou-Charentes, il y a de quoi faire aujourd'hui dans ce secteur.
Est-ce qu'il y a des gens en recherche d'emploi dans la salle? Exprimez-vous.
Bonsoir. Moi, j'ai un cycle d'ingénieur, donc plutôt orienté aéronautique. Et bah, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été entendu, enfin ce qui a été dit, pardon, excusez-moi.
Dites.
Après, ça dépend de chaque filière et tout, mais en tant qu'ingénieur, actuellement, il n'y a pas tant de facilité que ça à trouver.
Je vous ai vu à Aérotop.
Tout à fait.
Voilà. vous m'avez pas appelé.
Si, je vous ai envoyé un mail.
Ah.
J'ai pas votre numéro de téléphone.
Alors, ouais, mais alors voilà. Mais alors, punaise, arrêtez avec ces saloperies de mails. Arrêtez avec ces sites internet. Je t'écoutais tout à l'heure, j'aurais voulu t'étrangler. Mais une fois, à l'ONICEP, il y a des bureaux à l'ONICEP. C'est à toi que je parlais. C'est toi que je t'ai attaqué. Là. Il y a des bureaux à l'ONICEP. Il y a des gens, il y a des visages, hein. Patrick. Non, mais je veux dire, Patrick, je ne voulais pas t'interpeller comme ça. Mais téléphonez. C'est une mauvaise excuse.
Numéro, alors.
Non, mais je vais vous le donner. Je vais vous le donner avec plaisir, parce qu'en plus, vous étiez venu au salon d'Aérotop. Je me rappelle de votre visage. Et comme vous m'avez dit, je ne trouve pas. Et je retrouve avec la même tête qu'à l'Aérotop. Vous m'avez dit, putain, je ne trouve pas. Donc, alors, je sais que de mémoire, vous avez une formation très pointue sur, dans les matériaux, je crois.
Ingénieur en matériaux.
Oui, ouais, comme moi, dans les matériaux. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les ingénieurs, là, moi, demain, je cherche des ingénieurs de production. Je cherche des ingénieurs au niveau de la logistique. Je cherche des ingénieurs qui vont m'aider à améliorer la performance de la société, etc., dans le terme du flux industriel. Et on en cherche beaucoup, beaucoup. Après, là où je m'adresse à vous, mais aussi peut-être aux autres jeunes, c'est qu'il faut faire attention, même si le secteur est ouvert, il ne faut pas se fermer à un truc. C'est-à-dire que vous êtes ingénieur matériaux, si ça ne répond pas vraiment, vous ne présentez pas ingénieur matériaux. Je suis ingénieur, je suis passionné d'aéronautique. Alors, je pense, c'est pas une critique que je vous fais, je pense que vous avez fait sûrement différemment et que vous avez été assez ouvert pour ça. Mais pensez bien aussi de vraiment... C'est pas parce que le secteur embauche qu'il ne faut pas se battre. Il faut forcer les portes, il faut forcer les contacts, il faut être suffisamment souple et flexible aussi pour pouvoir accepter quelque chose qui ne soit pas forcément exactement... On parlait tout à l'heure en préparant la réunion sur quelle formation il faut... est-ce que vous avez besoin qu'on crée une filière? Je dis non, mais créez rien du tout. Les besoins changent en permanence. Les technologies changent, les problématiques de localisation changent. Donc il faut être en permanence en train de s'adapter par rapport à tout ça. Donc le message que je voudrais juste vous passer, c'est ça aussi, c'est de dire, n'hésitez pas de téléphoner, envoyer des courriers, allez dans les entreprises, dites voilà, moi je suis un jeune ingénieur, je cherche du boulot, est-ce que je peux être reçu par le responsable du personnel? Je ne dis pas que vous allez gagner à chaque fois, je ne dis pas que vous allez gagner tout court, mais il faut le faire. Et cherchez le contact humain aussi avec les gens, comme vous, c'est génial, vous êtes venu à Aérotop, vous êtes venu ce soir, on va vous aider à trouver quelque chose, c'est pas possible. Bon, sinon il y a un autre problème, hein. Bon, je ne crois pas que vous ayez un autre problème. Donc on va trouver une solution. Mais cherchez le contact. Même vous, les jeunes, dans les stages... Alors là, il y a des j'ai plus jeunes, on parlait tout à l'heure des stages de 3e ou des stages ou les apprentissages. Combien de CV on reçoit tous les jours dans les entreprises sur les stages de 3e, sur les stages... on en a un paquet. Mais qu'est-ce que... on n'arrive pas à répondre à tout. Donc si, à un moment donné, dans un monde de brut, hein, ce qui est comme ça aujourd'hui, il faut aller chercher le truc parce que vous allez passer dans l'ensemble des mails qui vont être spammés, dans ceux qu'on va mettre à la benne, dans les courriers qu'on ne va pas regarder. Et même sur un secteur qui embauche, il faut le contact. Allez chercher le contact, comme vous le faites ce soir. Hein, comme vous le faites ce soir. Alors, je finis sur un petit truc. Je ne sais pas comment on pourra communiquer le mail de l'association AeroTeam. On va vous le donner pour ceux qui sont intéressés à la fin. Si vous cherchez un stage, alors ça ne veut pas dire qu'on va vous le trouver, mais si vous cherchez un stage, si vous cherchez une embauche, si vous cherchez une formation en alternance, vous nous laissez vos coordonnées ce soir. On relaiera ça à l'ensemble, ce qu'on a déjà fait, à l'ensemble des sociétés du secteur aéronautique de Poitou-Charentes. C'est-à-dire, voilà, on a un CV d'un jeune qui cherche, qui s'est déplacé à une soirée à l'espace Manès France à Poitiers, qui cherche là. Je ne vous garantis pas que vous aurez une réponse, je ne vous garantis pas que vous trouverez, mais on pourra le relayer. Donc voilà, n'hésitez pas à se contacter.
Conclusion, donc laissez-nous vos coordonnées. Et puis pour ceux qui sont réellement en recherche d'emploi et plus même. Oui, une autre question.
Vous parlez d'AeroTeam, c'est un groupement d'entreprises.
Alors AeroTeam, en fait, c'est une association, loi 1901, qui regroupe les industriels qui travaillent en Poitou-Charentes aujourd'hui. Alors, c'est une association qui existe depuis 3-4 ans, mais qu'on essaye avec Jean et d'autres, le patron de la Sogerma à Rochefort, d'autres patrons de sociétés industrielles, le directeur de l'ENSMA, M. Cotet. On essaye de relancer maintenant la région Poitou-Charentes, la Directe. On essaye, en fait, au sein de cette association, d'avoir des adhérents qui sont des sociétés industrielles. Et autour de certains thèmes, alors Jean anime la commission lien avec l'enseignement. C'est une. Enfin, il est là pour la 3AF ce soir, mais il représente aussi ça. Il nous fera un reporting de ce qui s'est passé ce soir au niveau de la relation avec le monde de l'enseignement. Donc cette association, elle travaille sur des commissions très pratiques, hein, la performance industrielle, comment acheter mieux à l'étranger, comment avoir un meilleur lien avec les entreprises, avec les écoles, comment avoir des financements pour développer nos entreprises aujourd'hui, et une commission, par exemple, sur le lien avec le monde de l'enseignement. Voilà, donc cette association-là. Alors, on a aussi le projet d'être présent au Salon du Bourget pour représenter les PME et TPE au niveau du mois de juin de cette année. Voilà, c'est une association.
Oui, oui. Moi, j'ajouterais que l'association AeroTeam Poitou-Charentes, qui existe depuis 2008, très exactement, elle a vocation à incarner réellement la filière. Et la filière, c'est bien sûr essentiellement les industriels avec la dimension économique qui est la leur, mais c'est aussi tout ce qui est autour... en matière de formation, en matière de recherche, parce qu'il y a des gros laboratoires de recherche, il y a des cryptes, il y a un certain nombre de structures qui permettent d'alimenter la recherche et le développement, si vous voulez. Donc c'est vraiment cette structure d'ensemble qui est incarnée dans AeroTeam Poitou-Charentes, dont notre président est ici présent, avec l'enthousiasme que vous avez pu découvrir, vérifier, et qu'il est loin de se tarir.
Pour ma part, je voulais ajouter juste deux éléments, si vous me permettez. Le premier, c'est que, par exemple, sur Aérotop, on avait affiché les offres d'emploi des entreprises. Une partie, bien évidemment. Et sur la centaine d'offres d'emploi qui avaient été affichées, il y avait 21 postes d'ingénieurs qui étaient recherchés. Il y avait 15 postes qu'on pouvait appeler responsables projet, 15 postes de techniciens et 38 postes pour des niveaux inférieurs, à savoir, ça allait opérateur, ajusteur, soudeur, conducteur. Ça confirme tout à fait ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Par contre, je confirme là aussi tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde, mais comme à chaque fois, on n'est toujours pas dans le monde des bisounours et il faut se battre. Le panel de formation et le panel des possibilités de se former à tout âge est important en Poitou-Charentes, y compris sur cette filière. Que les formations s'appellent strictement aéronautiques ou qu'elles soient mécaniques ou industrie, on peut rentrer dans la filière aéronautique par différents moyens. Monsieur Accorsini en est l'exemple, je dirais, vivant. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement à chaque fois d'utiliser toutes les portes, toutes les mains tendues ou les possibles mains tendues. Un forum, vous y allez parce que c'est l'occasion de rencontrer ou un professionnel ou un acteur de la formation qui pourra vous guider ou un conseiller en orientation. C'est aussi la possibilité d'aller dans une entreprise. Je ne sais pas comment vous réagissez les plus jeunes, mais très souvent, enfin, on le voit, nous, par rapport aux demandes qui nous sont formulées, les très jeunes n'osent pas aller frapper à la porte d'une entreprise. Ça, je crois que, surtout dans le milieu de l'aéronautique, je pense que vous pouvez y aller sans problème. N'hésitez pas à aller, mais de votre propre chef, enfin, je dirais, avec vos moyens, vous présenter et dire j'ai envie de faire ceci ou j'ai envie de faire cela, ou je peux vous apporter ceci ou je peux vous apporter cela. Dans tous les cas, les démarches tout à fait volontaires et positives, quel que soit votre niveau de formation, quel que soit votre sexe, là aussi j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour les femmes. Actuellement dans l'industrie, c'est vrai que la plupart des postes, c'est, on voit en Poitou-Charentes, il y a encore un peu moins de femmes que dans les autres régions de France. On est à moins de 5% de femmes dans le secteur industriel. Mais il y a de la place pour les femmes sur des postes tout à fait, mais vraiment sur tous les postes. Un soudeur, ça peut être une soudeuse. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci. D'autant plus quand on est sur des matériaux très particuliers ou qu'on est sur des techniques un peu plus spécialisées. Les femmes sont encore plus recherchées. Voilà, c'est juste ces quelques éléments, je pense, qui sont intéressants à avoir dans votre tête.
Merci, Françoise. Du côté des représentants des lycées techniques, le lycée Réaumur, par exemple, comment vous vivez le... Oui, bah non, je vous laisse poser la question, alors. Je vous laisse, oui.
Donc, lycée Réaumur, on est représenté ce soir par moi-même, Christophe Copin, et donc Jacques Cordien, qui est juste devant moi, et puis son fils. Voilà. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait madame... je ne sais plus votre nom, mais enfin, ça va revenir.
Guillemant,
voilà. Il faut savoir que les sociétés aéronautiques cherchent à féminiser les emplois. Actuellement, Dassault à Biard cherche à féminiser donc ses compagnons. Et on a une fille qui avait fait une mention complémentaire soudage qui est rentrée donc, chez Dassault il y a 2 ans maintenant. Et on a une jeune fille actuellement qui a fait un stage chez Dassault en première, qui est en bac pro technicien chaudronnerie industrielle, qui... si elle a son bac, est prise chez Dassault, donc à la rentrée, enfin au mois de septembre 2013. Voilà. Donc, la direction des ressources humaines m'a confirmé qu'elle cherchait à féminiser. Donc mais elle recherche aussi, bien sûr, des candidatures hommes aussi. Voilà.
Non, sur peut-être quelques précisions là sur la situation du marché du travail. Alors, en fait, ce qu'on observe, si vous voulez, c'est que le taux d'emploi augmente en fait avec le niveau. Hein. Si on est sur un niveau CAP, on a aujourd'hui à peu près un taux d'emploi de 70% hein, pour 24% de chômeurs. Si on est sur un bac et un diplôme équivalent, on a un taux d'emploi de 73% hein, et 13% de taux de chômage. Hein. C'est une enquête qui a été menée par le CEREC il n'y a pas longtemps. Si on regarde dans les filières... précisément, si on est dans les domaines des structures métalliques, hein, le taux d'emploi actuellement est de 67%. 30% de jeunes ne trouvent pas d'emploi hein, après 7 mois de sortie de formation. Dans le domaine de l'électricité et l'électronique, on est à 67% pour le taux d'emploi, 26% pour le taux de chômage. Bon, si on prend les spécialités de transformation, quelles que soient les spécialités, hein, on est à peu près aussi sur le même ratio. Voilà. Donc c'est pour vous donner une tendance. Je pense que bon, il y a, c'est vrai que la conjoncture actuelle n'est pas facile, mais on voit bien que à la fois la qualification et à la fois le fait de vraiment chercher un travail, on a quand même un taux hein, qui remonte et quand même est satisfaisant. Quoi. Voilà. Alors après. On s'aperçoit que sur des domaines plus spécifiques, évidemment, c'est plus compliqué, mais je ne connais pas le cas de monsieur.
Vous voulez répondre ?
Dans le métier d'ingénieur, on sait très bien qu'on est formé à être général. Donc, on voit avec vous, monsieur Ascorsini, on évolue lors de notre carrière, donc ça reste quand même un métier général. Donc même avec une spécialité matériaux, je ne peux pas dire que je sois un spécialiste.
Une question au fond.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la formation classique dans un lycée, mais formation professionnelle, enfin, c'est pas professionnel, je connais plus le nom, ST2I, il y a le ES, il y a SI, et puis aussi il y a la partie technologique pour les orientations en première. Est-ce qu'il vaut mieux faire ce type de formation ou bien intégrer un lycée bac pro directement?
Alors, je sais pas, tu veux faire une réponse, mais ça serait, tu veux la faire, puisque tu es au cœur de ce type de problématique. Tiens, viens prendre le micro, tu veux bien. Présente-toi.
Oui, présentez-vous.
Oui, donc, monsieur Bélisère, chef de travaux du lycée Bernard Palissy à Saintes. Voilà, donc, effectivement, on est en pleine réforme. Ça va être la première... La première année où il va y avoir ce fameux bac STI 2D. Voilà. Donc, en ce qui concerne ce bac STI 2D, donc sciences technologiques industrielles, développement durable, il existe très exactement quatre spécialités. Une première spécialité qui s'appelle, EE, énergie et environnement, qui correspond davantage au domaine de l'électricité. J'espère que je ne me trompe pas trop. Au domaine de l'électricité. Après, il y a une autre spécialité qui est la spécialité e-tech, innovation technologique et éco-conception, qui est plutôt axée, dans le domaine mécanique et plus sur la dimension construction mécanique assistée par ordinateur. Beaucoup de travail lié, à des logiciels spécifiques de la mécanique. Une autre spécialité, SIN, Système Information Numérique, qui travaille davantage sur tout ce qui est transmission de l'information, domaine de l'électronique, des équipements, des systèmes embarqués. Et puis une dernière spécialité qui est AC, Architecture et Construction, plutôt dans le domaine du génie civil. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont que des spécialités. Et ça, c'est véritablement une chose extrêmement importante dans cette réforme STI2D. La réforme STI2D veut en premier lieu former des bacheliers qui ont une transversalité, c'est-à-dire une culture technologique très large. C'est-à-dire qu'il y a les spécialités, soit, mais il y a donc au cours de leur cursus scolaire une transversalité importante au niveau de la technologie. C'est-à-dire que même si on choisit une spécialité EE ou e-tech, ils ont une culture technologique importante. Ils voient aussi bien de l'architecture et construction, etc., etc. Pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque l'on vise un métier, l'objectif, c'est pas se spécialiser sur une structure, parce que c'est un bac général et technologique qui est là pour accéder à des études supérieures, pour pouvoir avoir un éventail relativement important au niveau des filières futures.
Peut-être pour compléter la réponse, ce qu'on peut dire, c'est que vous posiez la question que choisir, plutôt aller vers un bac pro ou plutôt aller vers ce type de formation. Bon, les bacs professionnels ont plutôt une vocation pour quelqu'un qui souhaite s'insérer assez rapidement dans la vie professionnelle. Donc une formation, si tu choisis, je te tutoie, excuse-moi, mais... c'est plutôt pour par souci de rester en tout cas en proximité et répondre à tes préoccupations. Le choix du bac professionnel, c'est peut-être plutôt d'abord tu vas te former dans un métier plutôt pour être une technicienne, et l'idée, c'est que ces 3 années vont te permettre de t'insérer dans la vie professionnelle. Donc une formation, ce qu'on appelle une formation courte, avec comme objectif apporter une certaine technicité pour que tu puisses trouver un emploi, de niveau 4. Choisir la filière STI2D, c'est plutôt choisir une filière qui va te permettre d'avoir un cursus plus long, puisque tu iras plus facilement vers un BTS, ou plus facilement vers un DUT, ou plus facilement plus tard par une licence professionnelle, parce que la formation qu'on va t'offrir sera une formation moins professionnalisante, moins technique. En revanche, elle va être plus sur l'étude des systèmes. Alors, par exemple, dans les établissements, on prend une voiture électrique, et à partir de si on prend cette voiture électrique, alors la formation va consister, par exemple, à regarder quel est le système qui est derrière, c'est-à-dire comment on va gérer l'énergie, comment on va, si on est dans les bâtiments, comment on va gérer l'éco-construction, donc la domotique, chercher les économies d'énergie. Donc, je donne quelques exemples pour colorer un peu le type de formation. Donc, on est dans ce type de formation comme on veut former des gens qui vont réfléchir à la conception. Donc, on leur fait démonter des systèmes pour regarder comment ces systèmes fonctionnent. Et on leur donne une formation un peu, on va dire, de réflexion générale pour plus tard les former vers des formations longues pour aller dans cette conception. Donc, on va regarder, si on prend une télécommande, on va regarder comment fonctionne une télécommande, comment fait-elle, par quel type de système il y a derrière, et on va amener à décomposer, d'accord, et à chercher comment ce système va fonctionner. C'est pas, donc on va travailler sur la gestion des flux, la gestion de l'énergie, on va travailler sur les systèmes qui permettent de faire des économies d'énergie, sur les systèmes qui permettent de conduire l'énergie de manière plus efficace. Donc c'est un peu ça la vocation de cette formation. Elle a changé, comme l'a dit très justement le collègue, car en France, on a ces deux filières, c'est vraiment une spécialité française. En Europe, nous avons soit une filière générale, soit une filière professionnelle. En France, on a une filière générale, une filière technologique et une filière professionnelle. C'est un peu une exception, hein, ce système français. Donc, la formation professionnelle, c'est plutôt pour former des techniciens qui vont essayer de s'insérer dans la vie. Mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est pas parce qu'on rentre dans la vie sur une formation de technicien qu'on peut pas revenir plus tard dans une formation et pourquoi pas passer d'une formation de technicien vers une formation où on va aller vers la conception. Hein, tout est possible. Quand tu choisis une filière technologique, tu vas plutôt choisir une filière longue, plutôt une filière qui va t'emmener vers la conception. Et si tu choisis les filières générales, bien entendu, là, tu vas vers plutôt pour faire des études longues et plutôt vers d'autres types de métiers qui ne sont pas à coloration. Alors, développement durable, parce que justement, la préoccupation, c'est un peu l'effet Grenelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur la gestion des énergies, lorsqu'on travaille sur les bâtiments, sur la rénovation, ce que l'on cherche, c'est effectivement, c'est introduire de la domotique pour faire des économies d'énergie, c'est jouer avec les systèmes pour conduire l'énergie, c'est démonter les systèmes pour améliorer la compétence, améliorer l'efficacité, et puis en même temps, on cherche évidemment, hein, à rationaliser les systèmes, faire des économies en termes de consommation, etc. C'est le même problème que pour les avions. Hein. Les avions, aujourd'hui, si on évolue dans la carlingue des avions, on cherche à alléger le système, qu'il soit beaucoup moins lourd, pour rechercher des économies d'énergie. Hein. Pareil, voilà, d'où le fait qu'aujourd'hui, on essaye d'aller vers les nouveaux supports, comme à Rochefort, hein, où là, vous avez une filière qui permet d'aller vers un autre type de chaudronnerie qui constituera les ailes d'avion de demain. Voilà. Hein, c'est un peu pour essayer de colorer. C'est une question difficile. Hein, je me mets un peu à votre place. Que choisir une formation professionnelle, une formation technologique? Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu aussi en fonction de, si tu veux, de ce que toi... comment tu te sens dans la manière de développer ou d'acquérir des connaissances. La formation professionnelle, elle a une spécificité, c'est qu'elle est assez concrète. C'est-à-dire qu'on apprend la technicité, si tu veux, par la pratique, par l'expérience, par la compétence, par le fait qu'on est dans l'activité. Donc, du coup, c'est un peu comme si on apprenait à souder en soudant ou à fraiser en fraisant. La formation généraliste, elle est plus conceptuelle. Elle est dans une approche qui est peut-être un peu plus théorique. Alors, c'est vrai que ça dépend un petit peu, de la manière dont on aime aborder les études. Hein. Alors, il y a des personnes qui sont plus conceptuelles, il y a des personnes qui ont besoin, pour sentir les choses, de passer par la pratique. Donc, c'est un peu ça, les choix qui peuvent te permettre, si tu préfères rentrer dans la pratique, si tu préfères découvrir les métiers de l'intérieur, si tu préfères apprendre en faisant... quelque part. Alors, c'est vrai que la filière professionnelle répond à ce niveau-là à peut-être tes aspirations. Mais sache que, en tout cas, c'est pas choisir une voie professionnelle, c'est pas être fermé. C'est au contraire, hein, un BTS, c'est aussi une formation professionnelle. Hein. On élève son niveau de qualification. Faire une licence professionnelle, c'est aussi une formation professionnelle et on élève son niveau de qualification. Et je crois que c'est important de dire aussi aux jeunes aujourd'hui que les systèmes de formation sont tels que dans la vie, rien n'est jamais fermé. Hein. Que tu sois dans un niveau 5, dans un niveau 4 ou dans un niveau 3, je veux dire, rien n'est jamais fermé. Hein. Et après tout, on peut travailler, sortir et n'avoir qu'un CAP, mais pas grave. On peut redévelopper ses compétences par l'apprentissage, par la formation continue. C'est ça qui est important. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin hein, de dire aux jeunes que rien n'est jamais joué, rien n'est jamais fermé, et qu'après tout, on a la possibilité tout au long de sa vie de se former hein, et d'élever son niveau de qualification. D'ailleurs, je voudrais dire, conclure, que ce n'est pas seulement une intention, ce que je dis là, c'est que c'est dans une loi. Hein, la loi du 24 novembre 2009, c'est un peu technique, c'est un peu juridique, mais elle oblige tous les opérateurs, elle nous oblige, nous, opérateurs de formation, elle oblige les entreprises, elle oblige les partenaires, elle oblige tout le monde à faire en sorte que chaque individu, au cours de sa vie professionnelle, acquiert un niveau de qualification complémentaire de N plus 1 par rapport à son entrée en formation. Donc ça, c'est dans la loi, ce qui fait que toutes les entreprises qui cotisent pour la taxe d'apprentissage ou qui cotisent ce qu'on appelle à des organismes collecteurs agréés, redistribuent ceci hein, sous forme de parcours de formation. On appelle ça contrat de professionnalisation, on apprend ça, on a différents noms pour déterminer ça. Mais toutes les entreprises, en tout cas, offrent de la formation aussi à leurs employés parce qu'on a tous, par la loi, l'obligation hein, d'essayer d'élever le niveau de qualification de nos employés et de nos ouvriers. C'est un vrai défi, mais c'est aussi un défi si on veut relancer en France l'industrie. Alors, pas parler du redressement productif, mais c'est aussi, on a besoin aussi de compétences hein, pour relancer chez nous l'industrie. Voilà. J'espère pas avoir été trop compliqué dans ma réponse, en tout cas, oui. Et t'avoir motivé, en tout cas, t'avoir aidé à choisir ta voie. Ah, parce que lui n'a pas osé poser la question, donc c'est sa sœur qui l'a posée. Sa maman. Là. Alors que elle fait très jeune. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Excusez-moi.
Il y a un complément d'information, là, peut-être.
Un tout petit peu pour étayer, disons, les réponses de M. Michelin. C'est, je vous invite énormément à venir aux journées portes ouvertes des établissements qui vont se faire au mois de mars. Et véritablement, vous allez voir la différence entre le bac professionnel.
Le 23 mars.
Ça dépend des établissements. Pour Poitiers. Voilà.
Oui.
Voilà, nous, c'est le 16. Bon. Et vous verrez véritablement la différence entre un bac professionnel et un bac STI2D parce que ne serait-ce que les locaux changent. Au niveau du bac STI2D, vous verrez, ce ne sont pas des salles de cours, ce sont des pôles, des groupes qui permettent aux élèves effectivement de travailler en petits groupes, 4 ou 5, sur une problématique. Donc ça, véritablement, c'est intéressant d'y aller.
D'autres questions? Est-ce qu'il y a... Oui, une question d'une jeune fille.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je voudrais savoir, s'il vous plaît, quelles sont les conditions ouvertes pour un étranger qui veut travailler dans le secteur de l'aéronautique en France, un étranger qui ne soit pas ressortissant d'une communauté européenne ou ayant vécu en France, mais qui n'a pas la nationalité française.
Alors ça, effectivement, ça fait partie des problèmes qui ne sont pas toujours faciles. Hein. Sylvain, tu peux peut-être répondre. Je sais que dans les secteurs un petit peu chauds...
Il n'y a pas de problème.
Ah, il n'y a pas de problème.
Il n'y a jamais de problème. Non, alors... Alors après, au-delà du droit du travail et de la réglementation d'un... Non, il n'y a aucun... Alors après, non... Oui, alors voilà, une fois que vous êtes en règle, vous avez... Voilà, il n'y a pas... En tout cas, dans le secteur de l'aéronautique en général, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, si vous devriez travailler dans une entreprise qui fait des missiles, dans la défense... peut-être que là, il peut y avoir des restrictions, et je ne sais pas. Mais en général, sûrement. Mais en général, il n'y a pas de problème. Nous, on embauche, on a dans nos salariés des étrangers qui ne sont pas de la communauté européenne aussi. Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de restrictions particulières, en tout cas de manière générale.
Pour l'accès à la formation, pas de souci de votre côté. Là, c'est vraiment l'accès à l'emploi, votre question uniquement.
Non, mais peut-être, il faut peut-être donner quelques, où elle peut s'adresser pour les missions locales, etc., peut-être pour aider à trouver.
Oui, après, en fonction, de, en fonction des cas, c'est-à-dire en dehors du droit du travail, il peut y avoir certaines... certaines situations qui peuvent être regardées par un conseiller d'une mission locale. C'est-à-dire que pour tous les jeunes, 16, 25 ans, 27 ans même, vous pouvez aller voir un conseiller de la mission locale. Donc sur Poitiers, il y a une mission locale très bien pourvue. Et peut-être qu'il y a des situations particulières qui font que ça, ça vous bloque peut-être pour demander, pour chercher un travail. Mais a priori, c'est, la, c'est le droit du travail ou le droit de d'entrée des personnes non, enfin, en non françaises.
En complément, je vais dire un mot. En complément, maintenant, si tu vas dans un centre d'information et d'orientation, normalement, on est en mesure aujourd'hui de te donner un premier conseil et de t'orienter vers une structure qui va, et même de prendre ton premier rendez-vous, vers une structure qui va t'aider hein, à essayer de solutionner ton problème. Voilà. Ça, c'est actuellement... Hein, toutes les structures sont en train de se mettre en réseau. Hein, alors, on appelle ça une labellisation du service public de l'orientation, mais c'est un peu compliqué. L'enjeu, c'est de dire, si près de chez toi, il y a une mission locale, un centre d'information et d'orientation, alors tu peux t'y rendre. Dès que tu rentreras à ce niveau d'information, on va t'aider hein, et prendre un rendez-vous pour trouver la bonne structure hein, qui va permettre de répondre et de t'orienter hein, vers les bons services. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions pour finir le parcours ? Oui, Christine.
J'ai une question, c'est pour mon fils, hein, c'est pas pour moi. vous pouvez me tutoyer.
Mais encore, ça me fait plaisir.
Donc c'est la question des passerelles. Pour un élève qui est en seconde, s'il est en seconde générale, est-ce qu'il peut facilement passer en première technologique ou professionnelle ou l'inverse ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut qu'il redouble pour repartir dans la filière ? Est-ce qu'il y a des modules complémentaires de formation possibles ? Enfin, comment parce qu'on se rend compte qu'en seconde, les élèves sont pas rentrent en seconde.
Bon, alors on va essayer de répondre, on va essayer de faire une réponse un peu générale et puis peut-être donner un exemple, peut-être dans ton établissement, tu pourras donner un exemple de passerelle. Alors, d'abord, effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est que lorsque un élève rentre dans une seconde, c'est plutôt une seconde, on va dire une seconde qui doit lui permettre de... Enfin, la troisième, pour faire simple, la troisième n'est plus un palier d'orientation. Donc, on va en seconde et, en fait, on choisit après la seconde. Hein. Alors, il y a des élèves qui sont effectivement, sauf pour la voie professionnelle, qui est un peu particulière. Voilà. Mais tu es en lycée général et finalement, au bout de la fin de la seconde, c'est plus... bon, ça, c'est pas forcément où tu ne trouves pas forcément la filière vers laquelle tu vas aller dans la filière générale. Oui, alors tu as la possibilité... de revenir dans un lycée professionnel directement en première. Et donc, il va y avoir une prise en charge par l'équipe hein, et il va y avoir effectivement un travail par l'équipe pour adapter le jeune dans la filière qu'il va choisir. Alors, est-ce que ça marche bien ? Alors, ça marche bien de la seconde générale à la seconde professionnelle. On a... aujourd'hui, selon les filières, 30 à 40 jeunes. Hein, donc au total, on a à peu près 600 jeunes qui ont été traités par les passerelles l'an dernier. Hein, on suit filière par filière ce qui se passe au niveau du service de l'orientation. Et ça marche assez bien dans ce sens-là. Quand on veut avoir un jeune qui est dans la filière professionnelle et qui veut regagner une filière plutôt technologique, on a moins de jeunes qui le font parce que c'est plus difficile. Il faut avoir de bons résultats scolaires dès la seconde. Et là, on a 165 jeunes l'an dernier qui étaient concernés par ce type de passerelle. Voilà. Alors ça, c'est le principe général. C'est-à-dire que ça se passe dans l'établissement. Hein, on dit ça aux enseignants, c'est pris en charge par le chef d'établissement, et donc à ce moment-là, on s'inscrit dans une passerelle, puisque c'est un dispositif, donc on fait des vœux, on fait des vœux d'orientation, et ensuite on est affecté dans cette passerelle, hein, directement pour être pris en charge dans le nouvel établissement. Donc ça, c'est le principe tel qu'il est traité par les services de l'orientation. Hein, voilà. Alors, peut-être après, sur le plan pédagogique ou sur le plan... On peut partir peut-être d'un exemple. Et si, hein, et tu, on va donner la parole à notre collègue du lycée professionnel Réaumur. Il va dire comment, dans son établissement, hein, il gère les passerelles.
Alors, en fait, il y a différentes passerelles. Celle que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire passage de seconde à seconde, c'est une passerelle qui nous échappe en tant qu'établissement, puisqu'en fait, on rentre dans l'orientation classique gérée par l'inspection académique. Souvent, on a des élèves qui sont en seconde, qui ont des résultats qui sont trop moyens pour poursuivre en première générale, mais qui pourraient être suffisants pour pouvoir intégrer directement une première professionnelle. Donc là, ce genre de passerelle, ce sont des passerelles que nous gérons, nous, en interne, sur des places vacantes. Voilà, le problème, il est là. C'est-à-dire que les effectifs en lycée professionnel sont des effectifs contingentés. Je prends un exemple, en chaudronnerie, nous avons 15 places. C'est pas 16, c'est 15. Donc, s'il y a une place vacante et qu'un jeune se présente avec un projet de passerelle, on pourra le faire. Donc, dans ce cas-là, on adapte son emploi du temps pour lui faire récupérer le retard de la meilleure façon. Et puis ensuite, on a des passerelles un peu plus exotiques. Exotiques, pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes qui ont déjà un bac, voire un DUT, qui ne trouvent pas d'emploi dans leur filière et qui veulent repartir sur une formation où il y a de l'emploi. Je prends l'exemple de la chaudronnerie. Donc actuellement, on a un élève qui est titulaire d'un DUT génie électrique, qui est en terminale bac pro chaudronnerie, et là il fait son bac pro en un an. D'accord ? Voilà. Donc il est exempté de tout ce qui est épreuve générale, maths, sciences, français, anglais, tout ça. De toute façon, il est déjà compétent, il n'y a pas besoin de le réévaluer là-dessus. Ce qui fait que son emploi du temps est consacré à 100% à la pratique professionnelle. Voilà. Donc dans ce cas-là, on négocie avec les corps d'inspection le nombre de semaines de stage en entreprise et le parcours pédagogique de l'élève.
Bien, je pense...
Jacques, pendant que tu as le micro, excuse-moi Jean,
vas-y.
Tu peux peut-être faire une information sur la semaine de l'industrie.
Alors, merci Patrick. Alors, semaine de l'industrie, c'est donc une manifestation nationale, c'est la 3e édition cette année. Elle est organisée du 18 au 24 mars. Et le principe de cette semaine de l'industrie, c'est de proposer donc à tous les opérateurs de formation industrielle et toutes les entreprises de proposer des actions pour valoriser les métiers de l'industrie. Donc à ce titre, en tant que lycée professionnel, nous on a proposé donc une organisation lors de cette semaine. Alors ça en consiste en quoi ? Des visites d'entreprise, des découvertes des métiers, des formations au sein des établissements, la journée porte ouverte, des conférences. Là en l'occurrence, donc Dassault Aviation viendra une conférence au lycée Réaumur sur les métiers d'aéronautique. On ne fait pas d'originalité, mais voilà. Et par contre, ce qui est original, c'est que l'après-midi, nos élèves bénéficieront d'une journée technique dédiée donc au rivetage, nos chaudronniers. Donc c'est un mode d'assemblage qui n'est pas courant chez les chaudronniers industriels classiques. Donc on va apporter cette compétence particulière à nos élèves.
Par exemple, est-ce qu'un élève de lycée général, qui est en seconde générale et technologique, a possibilité éventuellement d'assister à certaines des manifestations, des actions proposées ?
Voilà, trois publics cibles. Donc pour ce qui est de la journée du lundi, donc plutôt de nos élèves à nous. Trois journées consécutives, donc le mardi, le mercredi, le jeudi, des journées qui sont dédiées aux conseillers d'orientation psychologue et aux professeurs de collège. Donc en partenariat avec des entreprises, le matin on leur fait découvrir les formations au lycée et l'après-midi les métiers en entreprise. Donc cette année, on a un partenariat privilégié donc, avec Futura Mécanique, avec la concession Audi Volkswagen, et puis la société Secatol, et la société Poitvine de filtration, en Rien Grande. Et puis, pour tout public, c'est la journée porte ouverte, le samedi, donc 23 mars. Le 23 mars, c'est la journée porte ouverte de tous les lycées professionnels de Poitiers.
Alors normalement, si vous tapez « Semaine de l'industrie » dans Google, pour... vous allez retrouver toutes les manifestations hein, qui se déroulent en Poitou-Charentes. Et donc, selon le lieu où vous habitez, hein, vous pourrez vous rendre dans un établissement ou même avoir directement le programme hein, qui va être proposée, puisque de plus en plus, cette application qui a été mise en place avec les partenaires de l'industrie, hein, c'est aussi pour permettre un accès à cette information et pour permettre aux jeunes, hein, de pouvoir se rendre dans les établissements. Voilà, donc l'objectif que nous menons tous ensemble, partenaires de l'industrie et partenaires de la formation, c'est vraiment de contribuer au redressement, en tout cas, de l'industrie en France, hein, et de contribuer, en tout cas, au développement des emplois.
Bien, merci Joël. Je pense qu'on va conclure en disant que, en espérant qu'on vous a un petit peu convaincu de cet intérêt qui est double, parce que l'aéronautique est un secteur qui est en pleine expansion, et surtout, on n'a pas eu le temps de beaucoup en parler, parce que moi j'ai envie de dire que c'est un secteur de passionnés, et que les gens qui rentrent en aéronautique en sortent rarement. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles tous les gens que j'ai pu connaître qui ont fait ce parcours professionnel dans l'aéronautique sont des gens en général qui sont parfaitement réalisés, qui sont parfaitement bien dans leur peau, et ça n'est pas rien dans une existence. Voilà, je termine un peu sur une note de philosophie. Il me reste à remercier l'ARFTLV et notamment Françoise Guillemant qui vient de La Rochelle quand même, Joël Michelin et Patrick Martin pour le rectorat, Sylvain Corsini pour Mecafi plus Aéroteam Poitou-Charentes, et puis l'espace Mendes France en la personne de Christine Guiton qui nous a préparé y compris un petit repas excellent, vraiment bien meilleur que dans les avions. Allez, on va terminer sur cette note d'humour, et merci à tous, et y compris les gens qui sont venus des lycées de Sainte, de Rochefort, c'est pas rien. Voilà, merci à tous et bonne soirée.
Bonsoir.